Des mots pour le dire.
Une émission de Redouane Espanti avec Michel Théron.
La culture devrait être compréhensible au plus grand nombre. Les schémas d'interprétation qui sont proposés dans le livre de Michel Théron se veulent accessibles à tous. Il n'y a pas de choses simples, disait Valérie, mais il y a une façon simple de voir les choses et c'est ce que nous essayons de faire d'émission en émission. Des mots pour le dire, comprendre la culture générale avec Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Bonjour à vous qui êtes déjà sur l'antenne, bonjour à vous qui nous rejoignez donc sur le 91 MHz FM Plus Montpellier, ou bien sur le 103.1 Radio Alliance Plus à Nîmes. Alors, on continue ensemble, chez Michel, à découvrir avec vous tous les couloirs, les chemins buissonniers de la découverte de la culture. Et on arrive à quelque chose de très important. Alors, on dit un corps sain,
une
âme saine dans un corps sain. Donc c'est là-dessus que vous allez entretenir, parce que la culture nous parle aussi de la santé et du corps.
Oui, alors nous en sommes donc au chapitre 7 de mon livre qui traite de la désymbolisation et de l'unidimensionnalité. Je répète que ce sont des mots savants qui signifient tout simplement le fait que le matérialisme prévaut dans une culture en décomposition, comme peut-être la nôtre, hein, et l'homme est amputé d'une essentielle dimension, celle de son âme. C'est ça, l'unidimensionnalité au sens de Marcus. S'agissant du corps, il me semble que toute culture, dans le sens fort du terme, est une instance qui juge le corps, qui considère qu'il y a quelque chose de plus important que lui, que l'on appelle d'habitude l'âme. Hein. Mais aujourd'hui, alors, vous serez d'accord avec moi, Redouane, on a déifié la santé et le corps. Et depuis longtemps, n'en déplaise au ministre du culte que vous êtes, Redouane, le médecin a détrôné le prêtre ou le pasteur, vous voyez. Nietzsche disait bien dans le texte introductif de ce chapitre que l'homme moderne a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, hein, c'est le discours de Zarathoustra, mais l'homme moderne révère la santé. Alors on se dispute encore, dit Zarathoustra, mais on se réconcilie bientôt de peur de se gâter l'estomac. Vous voyez, rien ne tient devant la santé. Dans l'ancienne Rome, les Romains se saluaient en se souhaitant mutuellement une bonne santé. Ou allez, porte-toi bien. Et alors à cela, il faudrait opposer par exemple la formulation de salutation chez les Grecs. Les Grecs se souhaitaient la joie de l'âme, kairé. À mon avis, ça a beaucoup plus d'allure. Les Juifs se souhaitent la paix, hein, shalom. Les musulmans, la paix aussi, salam. Hein. Mais que dire de se souhaiter la santé, Redouane? Je ne sais pas, il me semble que là, il vaut mieux se souhaiter la paix ou la joie, hein, que la santé, non?
Disons, c'est une exhortation, plutôt un souhait qu'on a pour le...
Oui.
Je te souhaite une bonne santé.
Je te souhaite une bonne santé, oui.
C'est quand on boit un coup qu'on dit à santé. Hein.
Ah oui, 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 oui. Alors à Rome, que nous reste-t-il de Rome? Alors il nous reste bien sûr des monuments, mais il ne nous reste pas de grands temples, comme le Parthénon d'Athènes, par exemple. Il nous reste alors des aqueducs, le pont du Gard, par exemple. Hein. Il nous reste des égouts. Le Cloaca Maxima, le grand égout de Rome, est connu. Hein. Il nous reste des cirques où se faisaient les fameux jeux. Hein. Eh bien, vous voyez, tout cela renvoie à la façon dont l'homme romain considérait l'être humain, c'est-à-dire quelqu'un dont le confort est important, les distractions aussi, le cirque. Hein. Qu'en était-il de l'âme dans cette culture? Je crois que c'est Joyce qui dit quelque part que ce n'est pas la même chose de transmettre aux hommes futurs un Parthénon et de leur transmettre un water closet. Vous voyez, hein. Ils avaient inventé, je crois, déjà un système préfigurant le chauffage central moderne. Alors, il y avait les thermes aussi, où l'on prenait des bains, vous voyez. Mais c'est une civilisation matérialiste, quand même, par rapport à la Grèce, hein, par rapport à celle de la Grèce. Alors, dans la modernité, il y a résurrection du fameux bonhomme Chrysale. D'où vient-il, ce bonhomme Chrysale? Il vient d'une pièce de Molière qui s'appelle « Les femmes savantes » et où il représente justement l'homme unidimensionnel. Regardez le dialogue suivant. « Philaminte, dit à Chrysale, le corps, cette guenille, est-il d'une importance, d'un prix à mériter seulement qu'on y pense? Et ne devons-nous pas laisser cela bien loin ?» Philaminte, femme savante, hein. Et alors le bonhomme Chrysale répond, « Oui, mon corps est moi-même, et j'en veux prendre soin, guenille si l'on veut, ma guenille, mes chers. » Vous voyez. Donc, Platon disait que le corps était le tombeau de l'âme, hein, soma sema, le corps c'est un tombeau. Eh bien, pour nous, depuis Chrysale, nous sommes essentiellement notre corps. On idolâtre le corps. Vous voyez par exemple les salles de fitness, hein, où les hommes font des abdos, de la musculation, etc. Est-ce qu'ils se considèrent plus que comme un tas de viande ou un paquet d'instincts, pour reprendre les expressions mêmes de Marcuse ou bien de Huxley dans Le meilleur des mondes? Vous voyez, le bodybuilding, le culturisme, c'est l'auto-adoration du corps. L'homme s'adore lui-même. Alors, il aura des muscles pleins, mais il aura la tête vide. Et il aura une vie, comme on dit, light. Mais light pour moi, c'est 0% de matière grise. Vous voyez, hein. Je sais pas si vous me trouvez sévère, Redouane.
Ça dépend, de quel. Non, disons que c'est vrai que la manière dont on idolâtre aujourd'hui le corps, et tout est fait dans le but d'une consommation, de l'artificiel. Souvent, on a cité cette publicité parce que je le vaux bien, mais voilà. Qu'est-ce qui vaut bien ? C'est-à-dire, c'est non pas ce que je suis, mais ce que je représente. Donc, c'est l'artifice.
L'image que je donne aux autres.
L'artifice qui prévaut sur tout le reste.
Oui, alors, mais en tout cas, c'est la fin de la transcendance. Ah, parce que oui, la transcendance, oui, était autre. Hein, c'était l'attention vers un idéal tout autre que celui de sculpter son corps. Alors, nous allons réfléchir maintenant sur ce qu'est la sublimation et son contraire, la désublimation. Pour comprendre ce qu'est la sublimation des pulsions, qui est propre aux époques de haute culture, eh bien, je distinguerai, après Marcuse, dans l'homme unidimensionnel, par exemple, Eros et sexualité. Eros, c'est le désir qui s'accompagne d'imaginaire. Et sexualité, c'est simplement l'instinct génésique. Alors, je vais prendre quelques exemples. Ce n'est pas la même chose de faire l'amour dans un pré, dans une prairie émaillée de fleurs au printemps, par exemple, et de faire l'amour dans une voiture automobile. C'est pas du tout la même chose, hein. C'est pas la même chose de flirter dans les rues d'une vieille ville qui est chargée d'histoire et de souvenirs, et de le faire dans un environnement urbain moderne qui est froid et amnésique, vous voyez. Alors, la sexualité, elle limite l'élan humain à la seule fonction génésique, comme je l'ai dit, tandis que Eros implique le désir tout entier, hein, et l'être tout entier est érotisé. Les fleurs, le pré, la nature, les vieilles maisons, etc. élargissent l'amour, hein. L'imagination et l'élargissement de la pulsion à tout un environnement externe définit précisément la sublimation. Alors, quand on désublime, eh bien, Eros va disparaître et demeurera seule la sexualité. Alors, la sexualité peut certes se renforcer, peut augmenter, mais l'âme elle-même disparaît. Et je dirais, disparaît aussi l'élan vital concernant tout l'être. Tout cela diminue. Donc, le car love ou le zip love, etc., ça me semble ramener justement ce qui était humain, une imagination, à de l'élémentaire. Alors politiquement et socialement, il faut bien voir que c'est Eros qui est subversif, hein, parce que Eros focalise toutes les ressources et toute l'attente de l'être, hein, et il ne lui permet pas d'être disponible pour le jeu social, pour la rentabilité sociale. L'homme n'est plus un agent économique bien inséré dans le modèle ou dans le moule commun. Eros, en effet, met en péril la vie sociale parce qu'il y introduit un ferment d'anarchie. La vie sociale, qu'est-ce qu'elle demande? Eh bien, elle demande la stabilité des individus. Eh bien, Eros, au contraire, les rend instables, mécontents, insatisfaits, anomiques au sens de Durkheim. J'emprunte à Durkheim, célèbre sociologue, cette notion d'anomie, c'est-à-dire refus de s'insérer dans la norme sociale, vous voyez. Alors, je dirais même qu'un pouvoir, totalitaire favorise la licence sexuelle, mais n'aime pas du tout les passions. Parce que les passions sont individuelles et sont exclusives. Dans la passion, l'homme s'exalte, son énergie se galvanise, et alors, ayant une passion, l'homme peut résister à l'influence du pouvoir. Tandis que dans la satisfaction immédiate de ses pulsions, dans leur totalité, l'homme va perdre très vite le peu d'énergie ou d'élan vital qu'il a. Prenons l'image suivante. Représentons-nous de l'eau sous pression dans un tuyau. Si on perce le tuyau une seule fois, le jet d'eau est très intense. Mais si on le perce une vingtaine de fois, eh bien, il y a 20 petits jets d'eau tout à fait mesquins. Eh bien, de la même façon, celui qui s'exalte sur un seul objet, où il focalise sa passion, va déborder d'élan. Ça sera par exemple l'amoureux pour l'être aimé, la mère pour son enfant, le croyant pour son Dieu, etc. Eh bien, ceux-là sont instables et dangereux pour l'ordre social. Le jet gicle bien haut, pour reprendre les termes de ma métaphore. Mais celui qui disperse son énergie vitale sur un grand nombre d'objets, celui-là ne s'attache à rien profondément. Il ressent les choses très légèrement, et celui-là, il est très stable politiquement et socialement. La fontaine, pour reprendre ma métaphore que je continue de filer, la fontaine ne produit que des petits jets dérisoires, vous voyez. Alors, dans Le meilleur des mondes, qui est un roman prémonitoire d'Aldous Huxley, chacun se considère, selon les injonctions du pouvoir, comme un tas de viande, c'est l'expression même que l'on lit dans ce roman, ou un paquet d'instincts. Alors il y a une éducation collective qui est un conditionnement par suggestion dans le sommeil de tous les êtres. Cette suggestion dans le sommeil s'appelle l'hypnopédie, et on dit à chacun qu'il appartient à tous les autres. Chacun appartient à tous les autres. Alors les mères ne peuvent plus polariser leur amour sur leur enfant, puisque les enfants sont élevés collectivement. Des notions comme mère, monogamie, romanesque n'existent plus. Les couples se font et se défont, on est échangiste, on est décoincé ou décomplexé. Eh bien, c'est la même chose pour l'instinct religieux. Autrefois, dans l'ancien temps, le croyant pouvait dire « mon péché, mon Dieu terrible », il pouvait avoir toutes ces exaltations déraisonnables aux yeux de l'homme moderne, mais tout cela perd tout son sens. L'angoisse d'autrefois, serais-je sauvé, disait le croyant par exemple, empêcher les hommes qui s'exaltaient en solitude de ressentir les choses légèrement, donc d'être heureux et satisfait. Nous avons parlé la dernière fois de la fun morality de Baudrillard, l'éthos, comme on dit, c'est un mot grec qui veut dire le tempérament, de l'amusement vers lequel nos contemporains sont portés. Mais ces hommes modernes sont heureux. C'est exactement ce que dit Zarathoustra chez Nietzsche à propos du dernier homme. Autrefois, tout le monde était fou, dit le dernier homme, et il cligne de l'œil. Tenez, il y a un beau vers dans Andromaque de Racine, où Andromaque dit à propos de son fils Astyanax, « Je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui ». C'est magnifique ce vers. Mais est-ce qu'il se comprend aujourd'hui quand on met ses enfants à la crèche? Je ne sais pas, Redouane, ce que vous en pensez. Mais, bon, c'est une éducation collective, la crèche. Hein? On en a peut-être besoin du fait des conditions économiques. Mais il n'y a plus ce « je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui ». Vous voyez, on perd quelque chose.
Je ne sais pas. Là, je reste dubitatif.
Oui. Parce que mettre l'enfant, autrefois, elle n'existait pas, la crèche. Moi, j'ai été à l'école primaire à l'âge de 6 ans. Hein. Bon, l'éducation, il n'y avait pas d'école maternelle. Vous voyez, je crois qu'en Allemagne aussi, les mères élèvent leurs enfants tard. Hein. On ne les...
Disons, c'est la structure familiale qui a changé, mais les sentiments restent, je pense, encore plus forts qu'avant. Surtout lorsque les deux parents travaillent, c'est vrai que c'est partir tôt, c'est donc déposer l'enfant tôt,
oui.
Et on se languit de cet enfant qu'on ne voit presque pas, parce que quand on le dépose le matin, il dort, et quand on le récupère le soir, il dort.
Ah d'accord, donc c'est pas un abandon, c'est...
Non, il y a même un sentiment de culpabilité pour
ah, parents, voilà. Oui, voilà, bien sûr. Mais de toutes les façons, pour reprendre mon idée d'implication sociale et politique de ce phénomène, je dirais qu'un individu dont l'énergie est canalisée ou fixée de façon exclusive sur un objet ne peut pas, comme le dit Huxley dans son livre, faire marcher les rouages de la machine sociale. Pour que la machine sociale fonctionne, on a besoin non pas d'hommes exaltés et résistants, mais d'être satisfaits, stables et soumis. Regardez par exemple le roman d'Orwell 1984, hein, et bien dans le film qui a été tiré de ce roman, on voit que l'amour éprouvé par le héros va lui donner enfin la possibilité de résister au pouvoir totalitaire, à Big Brother, le grand frère qui nous épie tout le temps. Hein. Et à la fin du film tiré de ce livre, le héros dit « je l'aime ». Alors on ne sait pas, et c'est en quoi c'est très habile, de qui il s'agit, hein. Le héros, on le torture pour le rendre conforme. Alors on ne sait pas si « je l'aime » s'adresse à Big Brother ou bien à la femme aimée. Cette fin est symbolique. Je pense que la passion amoureuse et les sublimations dont elle s'accompagne permettent de résister au totalitarisme. Nous avions parlé, je crois, aussi de Brésil, de Terry Gilliam. Hein, vous l'avez vu, hein, Redouane,
oui,
ce film.
Oui.
Hein, c'est le même sujet. À la fin, bon, le héros est torturé. Ce qui lui a donné le pouvoir de résistance, c'est l'amour pour l'héroïne. Vous voyez. Mais Big Brother, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, il soit revendiqué, même revendiqué par les hommes d'aujourd'hui. Revendiqué comme instance normative ou normande. Regardez par exemple Love Story. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais enfin, les participants, ils vivaient sous l'œil des caméras, hein, et ils le savaient, et ils en étaient contents, ils en étaient heureux, vous voyez. Ça pose problème, ça.
Ben, disons, on est tombé dans une sorte d'exhibitionnisme. On est prêt à tout pour passer à la télévision, comme on dit, parce que c'est une manière d'exister. Voilà, c'est peut-être pour ça que Big Brother s'inscrit dans ce paysage.
Oui, on ne le sent plus comme terrifiant. Alors que Orwell voulait nous le montrer comme terrifiant.
Comme terrifiant, oui. Oui.
Donc,
c'est d'ailleurs une atteinte à la liberté.
Oui, c'est-à-dire, une atteinte à la liberté.
Du coup, on est formaté comme
mais les candidats de ce jeu, voilà, eux, ben, ils aiment justement être constamment épillés. Ça pose problème. Hein.
C'est du nombrilisme.
Un nombrilisme, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus d'individualité. Si vous voyez aussi le film de Chaplin, Les temps modernes, eh bien on y voit bien, on n'a rien à faire de la fantaisie individuelle. Je crois que au tout début, on voit un troupeau de moutons, des moutons blancs, et au milieu, il y a un mouton noir. Hein, le mouton noir qui signifie celui qui n'est pas dans la norme. Je dirais qu'il y a un rôle éminemment précieux de l'imaginaire, qui est la subversion sociale. Et si un jour l'homme perd sa capacité d'imaginer, en solitude, ce qu'on appelle la fantasia, hein, à partir du grec, ou la fantaisie constitutive de son être, alors l'homme perdra toute liberté, et dès lors il ne peut que se soumettre au pouvoir. Le temps est venu où l'homme est devenu incapable, selon les termes de Zarathoustra, de projeter son désir au-delà de lui-même, eh bien cet homme-là ne pourra plus rien opposer aux injonctions du pouvoir. C'est une leçon de résistance qui était la morale essentielle d'un roman d'apprentissage de Michael Ende, Histoire sans fin, dont un film a été tiré. Alors nous allons entendre une chanson de Brassens maintenant, qui justement nous trace le portrait de l'homme moderne.
Du temps que régnait le grand pan, les dieux protégeaient les ivrognes, un tas de génies titubants, au nez rouge à la rouge trogne. Dès qu'un homme vidait les cruchons, qu'un sac à vin faisait carousse, il venait en bande à ses trousses compter les bouchons. La plus humble piquette était alors bénie, distillée par Noé, Silène et compagnie. Le vin donnait un lustre au pire des minus, et le moindre pochard avait tout de Bacchus. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mis à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui ça et là, les gens boivent encore, et le feu du nectar fait toujours luire les trognes, mais les dieux ne répondent plus pour les ivrognes. Bacchus est alcoolique et le grand pan est mort. Quand deux imbéciles heureux s'amusaient à des bagatelles, un tas de génies amoureux venaient leur tenir la chandelle. Du fin fond des Champs-Élysées, dès qu'ils entendaient un « je t'aime », ils accouraient à l'instant même compter les baisers. La plus humble amourette était alors bénie, sacrée par Aphrodite, Eros et compagnie. L'amour donnait un lustre au pire des minus, et la moindre amoureuse avait tout de Vénus. Mais se touchant le crâne en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui ça et là, les cœurs battent encore, et la règle du jeu de l'amour est la même, mais les dieux ne répondent plus de ceux qui s'aiment. Vénus est faite femme et le grand Pan est mort. Et quand fatal sonnait l'heure de prendre un linceul pour costume, un tas de génies l'œil en pleurs vous offrait les honneurs posthumes. Pour aller au céleste empire, dans leur barque ils venaient vous prendre, c'était presque un plaisir de rendre le dernier soupir. La plus humble dépouille était alors bénie, embarquée par Caron, Pluton et compagnie. Au pire des minus, l'âme était accordée, et le moindre mortel avait l'éternité. Mais se touchant le crâne, en criant, j'ai trouvé la bande au professeur Nimbus est arrivé, qui s'est mise à frapper les cieux d'alignement, chasser les dieux du firmament. Aujourd'hui ça et là, les gens passent encore, mais la tombe est hélas la dernière demeure, et les dieux ne répondent plus de ceux qui meurent. La mort est naturelle, et le grand Pan est mort, et l'un des derniers dieux, l'un des derniers suprêmes, ne doit plus se sentir tellement bien lui-même. Un beau jour on va voir le Christ descendre du calvaire en disant dans sa lippe, merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types, j'ai bien peur que la fin du monde soit bien triste.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission « Des mots pour le dire ».
Des mots pour le dire, toujours avec Michel Théron, désimpolisation et unidimensionnalité, donc on a vu santé et corps, et avec Brassens, on passe à un autre monde, où son regard très acéré.
Oui, mais c'est le monde moderne, le monde moderne. Le monde moderne, c'est celui de la bande au professeur Nimbus, c'est-à-dire la technoscience, hein. Elle est arrivée, elle s'est mise à frapper les cieux d'alignement, c'est-à-dire que bon, tout ce qui dépasse a été gommé. Alors j'aime beaucoup cette chanson qui s'appelle Le Grand Pan. Alors Pan, c'est le dieu de tout, hein, en grec ça veut dire tout, hein. Bon, et cela incarne pour Brassens la présence des dieux. Quand il y avait les dieux, chaque événement fondamental de la vie avait du poids, de la densité, avait de l'intérêt, faisait battre le cœur, développait l'imaginaire. Alors il y a trois parties, l'ivrognerie, hein, qui était ramenée à Dionysos ou à Noé, le premier ivrogne, hein. Deuxièmement l'amour, qui est renvoyé à Aphrodite, etc. Et troisièmement la mort. Eh bien tout cela a été aplati. Autrefois, on disait, il y a un bon Dieu pour les ivrognes. Bon, et maintenant, Brassens le dit bien dans un vers magnifique, du point de vue du contenu. Hein, Bacchus est alcoolique et le grand Pan est mort. C'est-à-dire, l'ivrogne avait de l'allure, mais l'alcoolique, ça relève de la médecine. Hein, simplement, c'est un alcoolique, vous voyez. Hein. Donc, pareillement pour l'amour, les petits génies folâtrants n'entourent plus les amoureux. Hein. Et alors, quant à la mort, elle est voilée, occultée, comme on l'a dit dans la dernière émission. Donc, la mort du grand Pan signifie symboliquement l'éloignement des dieux, c'est-à-dire des idéaux. Et ce qui reste, c'est un homme mutilé, restreint et aplati. Je trouve que de la part d'un agnostique, Brassens est agnostique, hein, sûrement. Bon, il a fait des poèmes anticléricaux. Eh bien, c'est remarquable de la part d'un agnostique. Il évoque même à la fin le Christ qui dit « descendrait de sa croix » en disant « merde, je ne joue plus pour tous ces pauvres types ». Malgré le langage cru, il faut comprendre que Brassens regrette que la croix, le Christ, n'a plus sa place dans le cœur des hommes.
La vulgarité n'est pas là où on pense.
Absolument. Il faut bien distinguer la vulgarité des mots, si vous voulez. Plutôt la grossièreté des mots. Hein. Vulgarité, ça veut dire la banalité. Hein. Brassens peut être grossier, c'est-à-dire cru dans son langage, mais il n'y a pas de vulgarité chez Brassens, pas de vulgarité. Voilà. Alors, donc, cette chanson, Le Grand Pan, moi, je l'aime beaucoup. Les dieux se sont enfuis. Alors, est-ce qu'ils sont enfuis ou enfouis? Est-ce qu'ils sont encore en nous? Je ne sais pas, Redouane. Vous êtes sûrement plus optimiste que moi là-dessus, puisque vous avez charge, justement, de maintenir la flamme au cœur des hommes. Hein. Les églises sont vides, au moins enfin, dans le milieu catholique, je ne sais pas ce qu'il en est des temples. Les supermarchés sont pleins, hein, eux, ils sont pleins. Et il est question même qu'ils ouvrent le dimanche, vous voyez. Mais bon, c'est significatif.
C'est significatif, d'une société à la dérive, voilà. Sur les valeurs, sur les questions de valeurs, sur la question du sens. Oui. On a l'impression que petit à petit, aussi, nos gouvernants ont fini par faire du citoyen français, alors on parlera que de la France, citoyen français, un consommateur, un ventre.
Voilà.
Et vide de sens, voilà. Un ventre.
Voilà. Il n'y a plus de sens là-dedans. Alors réfléchissons maintenant sur comment fonctionne le désir humain. Quelle en est la psychologie ? Pour bien comprendre combien l'unidimensionnalité et la désymbolisation réduisent et amputent l'homme, il convient de voir ce qui distingue essentiellement dans l'homme le désir. Alors il faut bien distinguer le désir et le besoin. Bachelard disait « l'homme est le fils du désir, non du besoin ». C'est dans la psychanalyse du feu qu'il dit cela. Le besoin élémentaire, c'est à la base des activités naturel. Mais le désir, par exemple la faim, la soif, etc. Mais le désir ajoute au besoin autre chose. Il ajoute l'attente, le rêve, l'imagination. Par exemple, quand je vais à la boulangerie et que je ramène le pain chaud, eh bien, ce pain chaud, il ne se contente pas d'assouvir ma faim. Je peux le toucher, je peux le sentir, je peux rêver sur la chaleur, sur le feu, sur le foyer, vous voyez ? Bon, il y a là tout un imaginaire potentiel qu'il n'y a plus dans le pain du supermarché, qui est enveloppé de plastique. Alors, bien sûr, l'hygiène y gagne peut-être dans le pain supermarché, mais l'imaginaire y perd, hein, ce pain chaud. Alors, j'ai réfléchi aussi au langage. Quand le pain est tout frais, on dit qu'il est tout chaud. Vous voyez, c'est très bizarre, hein, c'est très bizarre, en français au moins. Hein. Alors, Eros n'est pas simplement la sexualité, nous l'avons vu, et exactement de la même façon, manger n'est pas simplement se nourrir, s'alimenter. Manger implique aussi la convivialité, vous voyez, c'est autre chose. Alors, dans la psychanalyse du feu, Bachelard parle de l'imaginaire procuré par la chandelle ou le feu autrefois, et il y a une diatribe contre l'électricité. Alors, bon, l'électricité, on dit la fée électricité, mais est-ce que c'est vraiment une bonne fée, vous voyez ? Elle supprime la pénombre des pièces, hein. Je tourne le commutateur, aussitôt toute la pièce est éclairée. Eh bien, je dirais qu'il y a là un côté mortifère pour le désir et pour l'imaginaire, puisque l'électricité met l'homme face à face avec les choses mêmes. Et donc, elle favorise, dans le monde moderne, la désublimation. Alors, bien sûr, l'homme a besoin de s'éclairer. Ça, c'est un besoin. Mais il désire le rêve, vous voyez, baisse un peu l'abat-jour, veux-tu, hein, dit Paul Géraldi dans Toi et moi, vous voyez, hein. Le commutateur électrique fonctionne brutalement, d'un seul coup il chasse de la pièce toutes les projections et tous les fantasmes que permettait la flamme d'encens dans la cheminée ou bien la bougie. La flamme d'une chandelle, d'ailleurs, c'est le titre de notre livre de Bachelard. Il faudrait aussi, je conseille aux auditeurs de lire un magnifique texte de Tanizaki, grand auteur japonais, qui s'appelle « L'éloge de l'ombre », où il dit que au Japon, les maisons valorisent la pénombre. Vous voyez les endroits où il y a du clair-obscur, tandis que nous, avec notre progrès technique de l'électricité, qui n'est pas forcément un progrès psychologique, nous voulons de la clarté partout. Alors, on aime bien les acronymes, hein, EDF. Alors, je dis électricité devient folle. Hein. Alors, bien sûr, je parle avec humour. J'espère que les auditeurs s'en rendent compte. Mais il me semble quand même que c'est dommage. Regardez les tableaux de Latour, par exemple. On voyait des bougies et des clairs-obscurs, puis Rembrandt, etc. Bon, ça, on n'a plus aujourd'hui la possibilité de le réaliser. Alors, regarde, bon, un désir humain. Un désir, les désirs sont comme les textes ou comme les trains. Chacun peut en cacher un autre, vous voyez. Un train peut en cacher un autre, un texte aussi, hein, dans la Bible, derrière chaque texte, il y a un autre texte, le procédé du Midrash. Hein. Eh bien, un désir, c'est la même chose. Derrière un désir, il y a autre chose que le désir. Le désir, il vit de pénombre, d'opacité. Fondamentalement, je dirais qu'il a une structure allégorique, au sens où il dit autre chose que ce qu'il déclare explicitement et expressément. Allégorie, c'est du grec, allo agorein, c'est dire autre chose. Hein. Et donc, il faut voir ce qu'il y a derrière le langage. Alors, vous serez d'accord avec moi, Redouane, pour dire que, par exemple, si nous rencontrons quelqu'un dans la rue et que nous lui parlons de la pluie et du beau temps, eh bien, très souvent, il s'agit d'autre chose que de la météo. Nous parlons d'autre chose que de la pluie et du beau temps. Nous désirons la chaleur d'un contact. C'est ce que le linguiste Jacobson appelait la fonction fatigue du langage, c'est-à-dire que nous parlons pour nouer contact, pour entrer en relation, vous voyez, hein. Autre exemple, quand un enfant demande un bonbon, eh bien, il désire autre chose qu'un bonbon. Il désire, très souvent au moins, hein, il désire qu'on lui parle, qu'on s'occupe de lui, hein. Et l'erreur alors est de lui donner ce qu'il demande, ou encore pire, hein, de lui donner de l'argent pour qu'il aille s'acheter des bonbons. Vous voyez, c'est Mélanie Klein qui, dans Envie et gratitude, a montré cette structure allégorique du désir. Dans le désir d'une chose, il est question d'autre chose que de la chose désirée. Et même la publicité le sait, puisqu'elle est basée tout entière là-dessus. Elle vise non pas des réalités, mais des rêves. Malheureusement, la différence entre la publicité et le désir humain profond, c'est que l'objet, justement, qui nous est proposé à la consommation, nous pouvons l'acquérir et le toucher. Et donc, si le désir fleurit toute chose, la possession flétrit toute chose. C'est une idée de Proust, hein. Le besoin ne vise que ce qui est, c'est-à-dire la réalité, tandis que le désir vise ce qui doit être. Hein. Donc une vérité, vérité de ce qui est désiré et vérité de celui qui désire. Hein. Vérité d'un objet, vérité d'un être. Et c'est le désir qui est la source de toutes les valeurs. Une valeur signifie ce qui est digne d'exister, ce qui mérite l'existence. Donc c'est le désir qui est normatif et pas le besoin. Dans le désir, il est question de l'unité de notre être, de sa propre justification. Je dirais, pour résumer tout cela, que la structure du désir est un désir de structure. Et au fond, c'est toujours le désir humain qui confère aux choses beauté et attrait. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, mais c'est parce que nous la désirons que nous disons qu'elle est bonne. C'est une phrase de Spinoza. Hein. Un homme aussi ne rêve pas d'une femme parce qu'il la trouve mystérieuse, mais il la décrète mystérieuse pour justifier le rêve qu'il se fait d'elle. Donc vous voyez, tout se part de l'aura, c'est-à-dire aura, A-U-R-A, mon latin qui veut dire auréole, hein, de notre attente. Tout vient non pas des choses, mais de notre regard, vous voyez. Et en vérité, nous désirerions peu de choses si nous savions exactement ce qu'est réellement ce que nous désirons. La beauté, disait aussi Spinoza, n'est pas une chose, une qualité de l'objet considéré, mais un effet en celui qui considère cet objet. Il prend l'exemple de la plus belle main du monde et il dit que, vu au microscope, cette plus belle main du monde apparaîtra effectivement horrible. On verra les anfractuosités, les crevasses de la peau, etc. Donc, je crois qu'il faut réfléchir justement à cette idée d'un désir structurant. Et s'agissant justement de la réduction actuelle de l'amour à la sexualité, c'est une mutilation qu'il s'agit. Hein. Proust dit que dans la possession physique, on ne possède rien. Il nous dit aussi que l'amour le plus profond pour un être est toujours l'amour d'autre chose. Hein. Vous voyez que aujourd'hui, cette tendance à ne prendre en compte que ce que Freud appelait la libido était quelque chose de dangereux. Donc Lévinas disait « L'absence de l'autre est ce qui constitue l'autre comme autre hein. ». Donc le désir humain, là, et on va l'entendre dans la chanson qui va venir maintenant, en quelque sorte crée en nous un trou, un vide, un manque, même quand la personne que nous aimons se trouve en face de nous, nous pouvons lui dire « tu me manques ». Et dans le texte adapté que nous allons entendre en chanson, qui est un texte de Robert Desnos, « J'ai tant rêvé de toi que tu en perds ta réalité », on voit bien justement comment fonctionne le phénomène.
J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Le contour de ton corps mes mains l'ont déjà oublié, à force d'étreindre et d'embrasser une ombre. J'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps que je m'éveille, de peur d'être déçu devant l'apparence réelle de ce qui me hante depuis tant et tant de semaines. J'ai rêvé tellement, tellement fort de toi. J'ai tellement marché, tellement parlé. J'ai tellement couché avec ton ombre qu'il ne me resterait plus rien de toi. Que tu perds ta réalité, le contour de ton corps, de tes seins, je les ai oubliés à force d'étreindre et d'embrasser ton ombre. J'ai rêvé tellement, tellement fort de toi. J'ai tellement parlé, tellement rêvé. J'ai tellement couché avec ton ombre qu'il ne me resterait plus rien de toi.
Vous êtes sur FM+, dans l'émission Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire avec toujours Michel Théron. On arrive à la troisième partie de notre émission. Ça passe vite. Mais justement, c'est peut-être la plus dense, le désir et l'absence.
Voilà, le désir se nourrit d'absence. Bon, la chanson que nous venons d'entendre est adaptée d'un poème de Robert Desnos, « J'ai tant rêvé de toi que tu en perds ta réalité », qui figure dans le recueil « Corps et biens ». Mais c'est une chanson adaptée, hein. Le chanteur n'a pas respecté la totalité de la lettre du texte, par contre il en a respecté l'esprit, vous voyez. Donc on rêve de quelqu'un et sa présence d'une part n'est pas nécessaire, et même quand elle existe, notre rêve va au-delà de cette présence. Alors on parlait des enfants, de la crèche tout à l'heure, Edouane, mais prenez le cas du portable. Quand on donne à l'enfant un portable pour pouvoir l'interroger à la récréation, as-tu bien mangé à la cantine, etc., eh bien le portable, il est à portée, hein, ça laisse l'enfant à portée, et donc on ne peut pas dire comme Andromaque, je répète, je ne l'ai point encore embrassé d'aujourd'hui, vous voyez. Donc il faut maintenir la distance, Donc il y a une importance essentielle de l'éloignement ou de l'absence de l'objet du désir, hein. Je pense par exemple au film de Buñuel, Cet obscur objet du désir, qui est tiré de La femme et le pantin de Pierre Louis, hein. Et il y a une nécessité constitutive que cet objet reste obscur ou lointain, qu'il reste transcendant. Et sa proximité n'est pas forcément une bonne chose. Les choses s'éloignent toujours pour mieux nous séduire, et la considération que nous leur donnons augmente avec la distance, vous voyez. Proust dit un très joli mot, hein, de Proust. Il dit « En général, rien ne nous fait mieux désirer une femme qu'une parole comme « Non, ce soir, je ne suis pas libre », vous voyez. Alors ça, c'est remarquable, hein. Et je pense que les femmes pourraient en tirer une leçon. Elle ferait beaucoup plus de cas de la pudeur et de la réserve, de l'éloignement donc, si elle savait dans quel mépris les hommes tiennent les femmes faciles, vous voyez. Donc, la psychologie...
C'est dans un film, là, je crois que c'était un air de famille où il disait « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. »
Ah oui, 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 tout à fait, voilà, c'est ça dont je vais parler. Ça, c'est la psychologie de la passion, justement, dans son fonctionnement habituel. Prenez la chaîne d'Andromaque, hein, ce qu'on appelle la chaîne d'Andromaque. Oreste aime Hermione qui ne l'aime pas. Hermione aime Pyrrhus qui ne l'aime pas. Pyrrhus aime Andromaque qui ne l'aime pas. Andromaque, elle, aime Hector qui est mort. Vous voyez, il y a donc une loi d'attraction-répulsion. Et nous sommes beaucoup plus près d'aimer qui ne nous aime pas que qui nous aime. On est plus près d'aimer celui qui est loin de nous que celui qui est près de nous. Musset disait qu'une femme est comme notre ombre. Quand on la fuit, elle nous poursuit. Mais quand on court après elle, elle nous fuit. Alors comment mieux exprimer que le désir se nourrit d'absence? On est mieux avec quelqu'un quand il n'est pas là que quand il est là, puisque l'on est en pensée, en rêve, en imagination, près de lui. Et s'il est là, sa présence est un obstacle à tout cela. Alors il y a un magnifique vers de Racine, dans Phèdre, hein, c'est celui que dit Hippolyte à Aricy, « Présente, je vous fuis, absente, je vous trouve. » Alors il faut comprendre, lorsque vous êtes présente, je vous fuis, je m'éloigne de vous, et lorsque vous êtes absente, je vous trouve. Et là-dessus, il y a aussi un très joli mot de Sacha Guitry, c'est le mot suivant, « Comme vous étiez joli hier soir au téléphone », vous voyez, c'est-à-dire qu'on pouvait imaginer. Donc, le désir est fait d'attente et d'imaginaire, et comme il se projette toujours dans l'avenir, il est essentiellement culturel. Toute civilisation, disait Valéry, est perspective. Alors, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec moi, mais je pense qu'en général, il faudrait renverser certains proverbes. Hein. Il y a un proverbe qui dit « les absents ont toujours tort ». Eh bien, moi, je peux le renverser en disant « les absents ont toujours raison hein. ». Un proverbe nous dit « mieux vaut tard que jamais ». Alors, on pourrait aussi renverser en disant « mieux vaut jamais que tard ». Il y a aussi un proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Moi, je dirais au contraire « loin des yeux, près du cœur », vous voyez. Je ne sais plus quel humoriste disait que le meilleur moment en amour, c'est quand on monte l'escalier. Hein. Le peintre Andy Warhol prétendait de même que l'amour est meilleur dans les rêves que dans les draps. Hein. Donc, qui ne voit que la vraie fête, c'est la veille de la fête, que le vrai dimanche... C'est le samedi soir, hein, et que les vraies vacances sont le jour où on les prend. Donc, il faut tenir compte, justement, de cette négativité fondamentale. Je vais terminer en vous lisant un petit passage du Soulier de Satin de Claudel. Hein. On demande à Rodrigue pourquoi il aime Prouèse, et il répond « Si je le savais, je ne le lui demanderais pas ». Et voici sa profession de foi, qui est une définition parfaite de la transcendance humaine, éprouvée et figurée dans le désir. Cette absence essentielle, oui, ma chérie, et même quand vous étiez vivante, et que je vous possédais entre mes bras en cette étreinte qui tarit l'espoir, qui sait si elle était autre chose qu'un commencement et apprentissage de ce besoin sans fond et sans espoir à quoi je suis prédestiné, pur et sans contrepartie. J'ai choisi comme dernière chanson « La quête » de Jacques Brel, qui a exactement le même thème.
La quête de temps aussi, hein, parce qu'on court chaque fois, on termine en sprintant. Merci Michel, on se termine donc avec Brel, l'éternelle quête. Hein, voilà, et puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur les mêmes ondes, au même endroit et à la même heure. Au revoir.
Au revoir à tous.
Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part. aimé, même trop, même mal, tenté, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps, ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler, pour atteindre l'inaccessible étoile.